Et quant à nous, nous allons ce soir, j'allais dire ce matin. Mais j'ai entendu que Noé, tout à l'heure, t'as dit, mais on est réunis ce matin, donc ouais, je suis pas le seul à faire le lapsus entre le soir et le matin.
Pire, c'est que j'étais là
10h. T'étais là 10h? Bon, bah voilà, t'es double motivation. Voilà, nous venons de ce soir, on a fait notre culte en chantant, en célébrant Dieu, en proclamant sa bonté, en proclamant sa perfection, sa sainteté. Dieu est bon et parfait, et ça c'est une réalité, une vérité. Et pourtant, combien de fois nos cœurs, nos esprits peuvent se poser cette question, et que celui qui ne s'est jamais posé cette question, puisse rentrer chez soi, puisque dans ces cas-là, c'est fini. Alors si ce Dieu parfait existe, si ce Dieu bon, trois fois saint, existe, pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi tel accident? Pourquoi tel virus? Pourquoi la guerre en Ukraine ou ailleurs? Pourquoi tel cancer? Et pourquoi tel décès si soudain et si terrible? Ces questions, elles ne sont pas là pour nous plomber l'ambiance ce soir, mais c'est des questions qu'on s'est tous posées, qu'on se pose tous. Petits, grands, chrétiens, athées, pourquoi le mal? Où est Dieu dans tout cela? Pourquoi tant de morts et d'injustices si Dieu est si grand et parfait qu'on le dit? D'accord, c'est des questions compliquées. Des questions compliquées. C'est sur quoi donc je vous propose de réfléchir courtement ce soir avec un court texte donc dans l'évangile de Luc, chapitre 13. On l'a déjà vu il y a un ou deux ans, mais voilà, donc on le refait ce soir. Un court texte donc du début du chapitre 13. Et on va voir qu'à travers deux drames, deux incidents, deux faits divers, Jésus va nous faire réfléchir sur la question du mal. Et surtout, on va voir que le mal est un rappel de notre nature déchue et un appel à nous tourner vers Dieu. Un rappel et un appel. Et je vous invite à lire les cinq premiers versets de Luc 13. C'est à la page 674. 674 dans ces Bibles-là. Excellent. Tu veux nous les lire, Charles? Une voix forte et téméraire.
À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle l'a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. »
Merci Charles. Fiona, est-ce que TikTok existait à l'époque?
Non.
Non. Donc Jésus, pour apprendre, il n'y avait ni TikTok, ni BFM TV, pour apprendre, et donc cela, il n'y a pas l'AFP, donc ce sont des personnes qui viennent informer, qui viennent raconter à Jésus un fait divers scandaleux, celui de plusieurs Galiléens tués par Pilate et ses troupes. Alors Pilate, ça fait déjà un siècle à peu près que les Romains sont en Palestine et donc la Palestine a été conquise par Rome et est sous administration romaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une garnison romaine est là et elle est là pour maintenir la paix. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Poutine il fait la même chose en Ukraine, il est en train de maintenir la paix, d'accord, et continuer à récolter taxes et impôts. Et donc là a priori le chef de cela, c'est Pilate, un préfet, un homme connu par sa violence et sa cruauté. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là entre Pilate et les Galiléens? On n'en sait rien exactement sur les détails, mais a priori ça s'est fini avec un bain de sang. Mais la réponse de Jésus, donc on vient d'informer, on comprend qu'on est venu rapporter cet fait divers à Jésus pour qu'il prenne position. Si Jésus est le libérateur de la Palestine, si c'est le Messie tant attendu, il y a une occasion rêvée pour critiquer l'occupant romain. Une occasion rêvée pour s'opposer à l'oppression étrangère. Et peut-être aussi pour répondre à cette question, pourquoi ce drame ? Pourquoi ces personnes sont-elles mortes si tu es le Dieu que tu prétends être ? Pourquoi ? Parfois, le mal qui nous touche les uns les autres est causé par une autre personne. Pilate à l'époque, Poutine aujourd'hui, mais on parle dans ces cas-là du mal moral, le mal que quelqu'un nous fait, quelqu'un nous vole, quelqu'un nous ment, quelqu'un nous tue, c'est quelqu'un. On appelle ça le mal moral. Des fois, il y a un deuxième type de mal, c'est le mal naturel. Un tremblement de terre, une inondation, alors là c'est de la faute de personne. Et d'ailleurs, c'est à cette seconde catégorie que Jésus étend la suite de sa réflexion. Il dit, ok, vous êtes venu me parler des Galiléens, mais vous me parlez de Pilate, mais ces 18 personnes tuées à la tour de Siloé qui leur est tombée dessus, c'est la même question. Donc Jésus, de lui-même, il étend en fait sa réflexion non seulement au mal moral, mais au mal naturel. Là, pour le coup, de la tour, c'est pas une personne mal intentionnée, c'est pas un attentat à la tour de Siloé. C'est simplement, les matériaux vieillissent, l'érosion, la pluie, le vent souffla, la pluie tomba, et puis boum. Mais c'est de la faute de personne, dans un sens. Mais dans les deux cas, que le mal, ça soit un mal causé par quelqu'un, ou alors simplement comme ça, en fait, Jésus va répondre la même chose aux deux situations. Il va répondre la même chose dans les deux cas. Même si pour nous, on aurait envie de dire que c'est différent. Alors déjà, on va regarder à ce que Jésus ne répond pas. Qu'est-ce qu'aurait pu répondre Jésus ? Qu'est-ce que vous auriez répondu à sa place ? Donc Jésus ne répond pas ? Jésus, vous aurez remarqué qu'il n'en profite pas pour accuser Pilate. Alors que l'occasion aurait été belle, hein ? Il n'accuse pas Pilate. Ou alors, est-ce qu'il accuse les constructeurs de la tour de Siloé ? Non, tiens, c'est un tel qui avait fait son boulot, c'est sa faute. Aujourd'hui, une tour à Siloé tombe, on fait un procès, on avait le cabinet d'architecte, bref, aujourd'hui on trouve un coupable et on l'envoie en prison. Là, Jésus, il accuse personne. Deuxièmement, il n'accuse pas non plus ces Galiléens, ou ces personnes à Siloé. Ah, si ça leur est arrivé, c'est sûrement de leur faute. Comme s'ils ont sûrement dû faire quelque chose de mauvais la veille au soir, et donc pour les punir, et ça leur est arrivé. Cette idée d'un Dieu qui punit, qui utiliserait le mal pour punir spécifiquement telle ou telle personne, en fait c'est une idée qui est très ancrée dans notre société. Et je ne vous parle pas de l'hindouisme. L'hindouisme avec la réincarnation, c'est si tu es dans telle galère, c'est parce que tu l'as mérité. Dans ta vie précédente, tu as dû être vraiment nul, bilan, cette fois-ci, le destin où tu rates ta réincarnation. Alors, on parle de l'hindouisme, mais Job dans l'Ancien Testament, c'est pas mieux. Hein. Vous vous souvenez, les amis de Job, ce qu'ils viennent lui dire ? Allez, si t'arrives toutes ces galères, c'est probablement parce que tu as dû faire quelque chose de pas bien. Donc, c'est de ta faute s'il t'arrive un problème. Jésus, il ne dit pas ça aux Galiléens. Il ne dit pas ça aux 18 personnes qui sont à Siloé. Il leur dit pas. C'est de ta faute. Non plus, il ne leur dit pas, il ne dit pas qu'elles étaient parfaitement innocentes. Oh, les pauvres, ils n'avaient rien fait. Ils étaient innocents. Aujourd'hui, quand un drame arrive, le réflexe humain est d'attribuer aux victimes toutes les qualités possible. Voilà, tout le monde est parfait, on va dire, à la fin. Et pour accorder toute l'innocence nécessaire qui nous permet de crier à l'injustice. Ce n'est pas ce que Jésus fait ici. Il ne béatifie pas les personnes qui sont mortes. Il ne leur décore pas la Légion d'honneur sous prétexte qu'elles sont mortes par une tour. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Quand on a entendu en Ukraine, un fait divers, voilà, une attaque, des soldats, ils se sont fait tuer, donc parce que d'un seul coup, oui, ils se sont fait tuer, et d'un seul coup, c'était les meilleurs, ils étaient parfaits, ils n'avaient aucun... Voilà, d'un seul coup, ils sont béatifiés à titre posthume. Ce n'est pas ce que Jésus fait ici. Sous prétexte qu'elles auraient été victimes de la cruauté de Pilate, ou parce qu'elles ont été au mauvais endroit, à Siloé. Elles ne sont ni parfaites, ni plus coupables que la moyenne. Donc en fait, ce que Jésus y fait, c'est qu'il ne cherche pas une explication individuelle à la présence de tels drames. Il ne cherche pas une réponse spécifique. Charles, s'il t'est arrivé ça, c'est à cause de ça. Magali, si tu as ce problème, c'est toi parce que tu as, ou alors, voilà, en fait, Jésus, il ne répond pas à, dans une logique où il explique le mal drame par drame, crime par crime, ou guerre par guerre. Ce qu'il fait, c'est, il dézoome en photo, vous connaissez, hop, quand on veut comprendre une scène, on dézoome, et on n'essaye pas de regarder chaque détail, on dézoome. Et c'est ce que Jésus, il fait. Et il va, en fait, élargir la question. Au lieu de réfléchir spécifiquement à ces Galiléens ou à ces Siloéens, je ne sais pas comment on dit, ceux qui habitent Siloé, il élargit la question. Et d'ailleurs, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il élargit la question. Ok, mais pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs parce qu'ils ont subi un tel sort? Non. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous pourrez subir le même sort. Waouh, je pense que les gens qui étaient venus rapporter ce fait divers à Jésus, ils n'étaient pas forcément venus. Ils n'avaient pas forcément envie d'entendre ça. Hein. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que ces Galiléens, donc on l'a vu, étaient ni parfaitement innocents, ni spécifiquement plus coupables que vous et moi. Et donc en conséquence, les autres Galiléens, les autres habitants de Jérusalem, les autres, nous, pourrions subir le même sort. Et ouais, et si l'immeuble il s'écroule là? On n'est pas si loin, mais on est environ 18. On est environ 18. Et ouais, nous pourrions subir le même sort. Jésus a raison. Et si l'immeuble s'écroulait? Nous serions tout aussi coupables et responsables que ces personnes. Mais coupables de quoi? Rémi, t'es coupable de quoi? Rien du tout. Responsable de quoi? Et pour cela, il nous faut de nouveau dézoomer, élargir, voir plus loin que la Galilée ou que Siloé. Ce que Jésus nous dit, ce que la Bible nous dit, c'est que nous, les humains, on a été coupables d'avoir rejeté Dieu, d'avoir cru ne pouvoir passer de lui, d'avoir cru vivre sans le Dieu parfait. Alors ça, on trouve ça dès le début, des Genèse 3, ça c'est valable dès Genèse 3, mais encore aujourd'hui, l'être humain veut n'en faire qu'à sa tête, veut vivre sans Dieu. Et on est concerné, petit, grand, qui d'entre nous n'a jamais un moment ignoré Dieu, s'être rebellé à Dieu? Qui d'entre nous ne l'a jamais fait, d'une manière ou d'une autre? Dès lors, le mal est rentré dans un monde initialement parfait. Le mal est rentré, tout, ça tourne plus rond, l'horloge elle est déréglée, et ça se concrétise par des crimes, des guerres, des tours qui tombent, des virus qui circulent, des incendies qui détruisent, etc. etc. Et effectivement, depuis, le mal, la présence du mal est pour nous rappeler qu'on vit dans un monde imparfait. Pour nous rappeler que quelque chose cloche. Et ces drames, ce que l'on voit, ne sont que la conséquence d'un mal bien plus grand, que la Bible appelle ça le péché. Le péché. Le mal d'une humanité qui voudrait un monde parfait. En fait, on aurait envie d'un monde parfait. Mais on ne veut pas du Dieu parfait. L'humanité veut un monde parfait, mais sans le Dieu parfait, sans être elle-même parfaite. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils voudraient que le monde aille parfaitement, mais sans Dieu. Alors si Dieu existe, pourquoi le mal? Si Dieu est parfait, pourquoi le mal? Effectivement, on sait cela, Dieu nous a créés libres. Il vous a créés libres. On ne vous a pas obligés à croire en Dieu. Dieu nous a créés libres et nous a laissé choisir entre le bien et le mal. Voici, je place devant toi l'arbre de la connaissance. Et nous avons décidé, quand je dis nous, c'est pas nous, c'est l'humanité, avons décidé qu'on habite en Galilée ou à Cavaillon, bah de rejeter le Dieu parfait, de n'en faire qu'à notre tête. Dieu nous a laissés libres, nous a voulu libres, mais il ne nous a pas voulu nous obliger de l'aimer. À quoi bon un amour si il est forcé et obligé? Ainsi, depuis que l'humain, dans sa liberté, a choisi de désobéir à Dieu, de le rejeter, le monde dans lequel on vit va mal, et la présence du mal est un signal, un symptôme, un rappel que quelque chose ne tourne pas rond ici-bas. Et peu importe son origine, que ce soit l'origine naturelle ou morale, le mal est un rappel que notre monde est désormais imparfait. Et il l'est. Un peu comme un, René, tu fais de l'électricité, mais un peu comme un court-circuit récurrent dans un tableau électrique. C'est un rappel, un symptôme qu'il y a un problème en amont. Le problème, oui, tu peux être pas content contre le fusible qui saute, mais le problème, c'est il est au-delà du fusible. Et le mal, les drames que l'on vit, c'est comme un fusible sur un. Ça nous rappelle que le problème est plus profond que ça. Et deuxième partie, si le mal est un rappel de notre nature déchue, de notre imperfection, il est surtout un appel à nous tourner vers le Dieu Sauveur. Et c'est notre seconde partie. Et pour commencer cette seconde partie, je vais vous donner une illustration à laquelle on a pensé avec Claudia et Ali mercredi soir. Laissez-moi vous donner une illustration. Celle à l'instant d'un incendie qui se déclenche ici. Il y a un incendie qui se déclenche là maintenant. Les flammes commencent à monter. Rémi commence à avoir chaud au bout du nez. Quelle est votre question? Quelle est votre priorité? Tu commences à faire chaud, Charles, tu commences à avoir les pieds qui chauffent. Quelle est votre question? Quelle est votre priorité? Pourquoi cet incendie? Qui est le responsable de cet incendie? Si Dieu existe, pourquoi cet incendie? À quelle température brûle la flamme? Quel est le pourcentage d'oxygène nécessaire? Dans combien de temps la cloison va s'effondrer? Est-ce que c'est un souci de défaillance? Qui est le responsable? Rémi, t'as de plus en plus chaud aux pieds. Quelle est la question qu'on se pose quand un bateau coule? Dans Titanic, quand l'eau coule, est-ce que c'est le moment de faire une estimation de l'iceberg et de la trajectoire? Non, c'est pas le moment. Quelle serait la priorité? Celle de courir, celle de se sauver de l'incendie, celle de quitter le Titanic. La question n'est pas de savoir pourquoi il y a un feu qui s'est déclenché ici. L'objectif, quand Jésus il vient sur terre, il n'est pas venu pour nous apporter toutes les réponses à laquelle on aurait peut-être envie de savoir. Le pourcentage d'oxygène, la taille de l'iceberg, ou qui est responsable, auquel il y a 10 000 questions. Mais Jésus, il n'est pas venu pour répondre à ces questions-là. Il n'est pas venu pour jouer aux philosophes et faire des grands débats. Il n'est pas venu pour nous faire la morale ou pour nous accuser. Rémi, c'est de ta faute, t'avais qu'à faire attention à l'incendie, il s'est déclenché. Non, Jésus est venu pour nous sauver de cet incendie. Jean 3,16, vous le connaissez. Jean 3,17, vous le connaissez peut-être un peu moins. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Et si Jésus vient, ce n'est pas pour répondre à 100% des questions, mais avant tout pour nous dire comment fuir cet incendie et se sauver. Et je pense que la priorité est là, si à l'instant même un incendie se déclenchait. Je n'ai pas poussé l'illustration à allumer un incendie pour de vrai, hein. Vous m'excuserez. Ainsi, dans notre passage, Jésus ne se contente pas de nous dire que nous sommes concernés par le mal, mais il nous propose une solution. C'est un problème collectif, mais il nous propose une situation, une solution individuelle. Un problème collectif, mais une solution individuelle. Qu'est-ce qu'il propose comme solution? Qu'est-ce qu'il aurait pu proposer comme solution? Une formule à réciter par cœur. telle la profession de foi des musulmans, par exemple, cette phrase à réciter, à répéter pour être et rester un bon croyant. Si tu répètes cette phrase, c'est bon, c'est gagné. Non, Jésus ne donne pas de formule magique à dire. Et nous, des fois, voilà, dans certains événements d'évangélisation, on peut avoir comme ça des... Voilà, levez vos mains et répétez après moi, je vais vous réciter une prière magique et à la fin, et quand vous aurez dit Amen, et ben c'est bon. Et bon, on a eu quatre conversions aujourd'hui. Excellent. Ouf. Non, ce n'est pas une formule magique à dire. Jésus ne donne pas non plus une liste de bonnes choses à faire. Bon, Anne-Lise, pour semaine prochaine, pour faire ça, alors il va falloir... sermon sur la montagne, boum, allez, repars, et tiens-moi au courant quand c'est bon. Si Jésus avait fait ça, je pense qu'on serait mal, si c'était ça la solution. Ou alors, Jésus aurait pu nous donner un exercice d'hypnose et de méditation intérieure à faire. C'est à la mode, ça. Hein. Alors, on va se réconcilier avec l'univers, on va se réconcilier avec la nature, on va se réconcilier avec soi. Ça, c'est très, très à la mode. C'est pas ce que Jésus nous dit de faire. Loin de ces fausses solutions, Jésus nous offre une solution, une manière de fuir l'incendie qui est ici. Versets 3 et 5, la même phrase. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. Si vous ne changez pas d'attitude. Changer d'attitude, c'est faire demi-tour. Ce sont des bons synonymes pour expliquer ce que c'est la repentance selon la Bible. Ça paraît simple, hein, de faire demi-tour. Ça paraît simple, hein, dit comme ça. Facile. Mais notre orgueil est fort. Et combien de fois, quand on s'est embarqué dans un mauvais choix de vie, quand on s'est embarqué dans des trucs, combien de fois c'est dur de changer ? Même moi, je l'ai fait des fois, j'étais au volant comme ça, et il y a le Nord qui me fait, t'es sûr que c'est là ? Ouais, si, je... T'inquiète pas, non, je continue, je veux pas reconnaître que je me suis trompé dans le. Voilà, où. Chérie, t'es sûr qu'au supermarché tu vas trouver où sont les trucs ? Ouais, c'est bon, je sais, t'inquiète pas, tu parles. Une demi-heure plus tard, on y est encore. C'est dur, hein, l'orgueil humain. L'orgueil. Faire demi-tour, changer sa manière de vivre. Alors, changer, faire demi-tour, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'autre solution, s'il n'y a pas d'autre solution, à quoi bon faire demi-tour ? Je prends exemple. Charles, si je te demande de changer ta manière de respirer, et à partir de maintenant, je te demande de changer et tu n'as plus le droit de consommer de l'oxygène. Allez, change, vas-y. Bon. Si je demande à Charles de changer, mais qu'en fait, il n'y a pas d'autre manière de faire, c'est ridicule. Si Dieu nous demandait de faire demi-tour, mais demi-tour vers rien, bah, dans ces cas-là, ça serait ridicule de vouloir faire demi-tour s'il n'y a pas d'autre solution. Il y en a une, c'est celle de se tourner vers un Dieu saint, sauveur, rédempteur, et c'est ce que nous allons voir. En effet, on peut se tourner vers un Dieu, et ça, c'est, pour moi, c'est une promesse, c'est quelque chose qui est super fort, on peut se tourner vers un Dieu qui ne tolère pas le mal, qui ne s'accommode pas du mal. Jésus ne dit pas « Ah !» Quelques Galiléens, c'est pas grave. Pas grave. La tour à Siloé, bon, ça arrivera, il y en a une, il y en aura d'autres. Dieu ne s'accommode pas du mal. Un peu comme le Covid, où certains pays, aujourd'hui, nous maintenant, vis-à-vis du Covid, on cherche à vivre avec. C'est pas grave. Pas grave, on cherche même plus à le combattre. On cherche même plus à atteindre zéro cas. On se dit, allez, vivons avec et puis voyons bien ce que ça donne. Dieu ne fait pas ça avec le mal. Quand, dans Genèse 3, Adam et Ève lui désobéissent, il ne dit pas, bon, ah, ça m'aurait fait plaisir si vous n'aviez pas fait, mais bon, continuons à vivre. Non, il ne s'accommode pas. Dieu est en révolte contre le mal. Notre Dieu ne tolère pas le mal. Voilà pourquoi il le condamne si sévèrement. Deuxièmement, chers amis, vous pouvez vous tourner vers un Dieu qui connaît lui-même la souffrance. Il n'est pas en train de parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Il parle de quelque chose qu'il connaît. En Jésus-Christ, justement, Dieu s'est incarné. Il a vécu ici-bas. Et vous savez quoi ? Il a eu affaire à pire que la méchanceté de Pilate ou l'accident du tour de Siloé. Il a eu faire face au rejet, à la persécution, à la tentation par le diable en personne, à la faim, à la trahison, à la souffrance et à la mort. Personnellement, je ne peux pas prétendre avoir une telle expérience de la souffrance que celle-ci. Donc s'il y en a un qui est bien placé pour dire ce que c'est la souffrance humaine, Dieu est mieux placé que nous pour le savoir. Le Dieu vers qui on peut se tourner est un Dieu qui connaît la souffrance. Il n'est pas étranger, indifférent, au-delà de nous. Et ce qui est génial, c'est que ce Dieu vers lequel on veut se tourner est un Dieu qui a décidé de prendre lui-même le prix de notre prétention à vouloir vivre sans lui, de notre responsabilité collective dans tout ce mal. Dieu n'est pas resté les bras croisés à regretter cette situation. Bon, allez, débrouillez-vous, Adam et Ève, avec votre... faites-moi signe quand c'est bon. Dieu n'est pas venu sur Terre pour faire du tourisme ou de l'humanitaire, mais il est venu pour prendre notre responsabilité et nous permettre de pouvoir nous échapper. Quatrièmement, le Dieu vers qui on veut se tourner est un Dieu qui nous offre l'espérance, l'assurance qu'un jour, il recréera tout, sans mal, sans mort, sans deuil, sans maladie, sans virus, sans incendie, sans guerre, etc. etc. Wow. Lisez les chapitres 21 et 22 d'Apocalypse. Quel magnifique aperçu du monde que Dieu prépare. Lisez les chapitres 21 et 22 d'Apocalypse. Alors pour résumer, le mal est un appel à nous tourner vers un Dieu qui ne tolère pas le mal, qui connaît très bien ce dont il s'agit, qui est venu personnellement en Christ régler le problème et qui promet un jour de tout recréer sans mal, sans mort, sans virus, etc. Waouh ! Alors sachons, les amis, sachons entendre cet appel à nous tourner vers Dieu encore et encore. Que cet appel se fasse dans le fracas d'une tour qui tombe ou dans le silence d'un virus qui se propage. En conclusion, rien de plus que ces questions qui sont toujours d'actualité. Pourquoi tel crime? Pourquoi tel accident? Pourquoi tel virus? Pourquoi telle guerre? Le texte de Luc 13 nous montre que cela ne sert à rien de chercher à chaque fois une responsabilité individuelle, spécifique, à tel ou tel problème, ni d'y voir la preuve de l'inexistence ou l'impuissance de Dieu. Bien au contraire, le mal est un rappel que le monde dans lequel on est, il tourne pas rond. Un monde comme ça, moi, j'en veux pas éternellement. Je ne veux pas vivre éternellement sur un monde où il y a tant de guerres et d'injustices. Nous vivons dans un monde imparfait. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas voulu d'un monde parfait. Parce que nous n'avons pas su utiliser le libre arbitre, la liberté que Dieu nous a donnée. Et maintenant, on se plaint. Certes. Mais dans l'urgence et dans la violence d'un incendie, la priorité n'est pas à la réflexion philosophique sur la responsabilité et l'origine de l'incendie. Mais la priorité est de se sauver et d'avoir la vie sauve. Peut-être qu'au ciel, un jour, on aura l'explication précise de tous les pourquoi. Peut-être qu'un jour, au ciel, on saura exactement pourquoi Dieu a voulu nous laisser ce libre arbitre. Peut-être que Dieu nous expliquera pourquoi le mal a pris tant d'ampleur. Pourquoi tel problème, pourquoi tel décès, pourquoi... Peut-être qu'un jour, nous aurons l'explication. Peut-être pas, je sais pas. Mais en attendant, l'urgence est de savoir comment fuir l'incendie qui s'est déclaré ici même. Comment se sauver de ce mal qui nous entoure. Ainsi, le mal ici-bas est un vibrant appel à nous tourner vers le Dieu saint, sauveur et rédempteur. Alors qu'à travers ces bruits de guerre qui se rapprochent, qu'à travers cette pandémie qui n'en finisse pas, ou qu'à travers les épreuves individuelles qui peuvent être les vôtres, qu'un maximum de personnes, à Cavaillon comme ailleurs, puissent entendre ce rappel et répondre à cet appel de se tourner vers le Dieu sauveur. Et que nous concernant, nous puissions être toucher, faire preuve de compassion envers ceux qui sont touchés directement, envers ceux qui souffrent, et que nous puissions toujours plus leur témoigner du secours que Dieu veut offrir à chacun et à chacune. Amen. Et je vous invite.